Secret d'info, Jacques Monin, sur France Inter.
Alors, nous recevons, comme chaque mois maintenant, la médiatrice de Radio France, Emmanuelle Davier, bonjour.
Bonjour Jacques.
L'occasion pour nous de voir ce que pensent les auditeurs de Secret d'info et de répondre donc à vos critiques sur les enquêtes que nous avons diffusées. Alors, pour le mois d'octobre, Emmanuel, qu'est-ce que vous avez retenu?
Sans surprise, c'est la diffusion de votre enquête sur les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon et la société Mediascope dirigée par Sophia Chikirou qui a provoqué de très vives critiques, des contestations sur le sujet même de l'enquête et des suspicions d'entente entre le pouvoir et Radio France. Alors, les auditeurs ont énormément écrit, il n'y a aucun doute, et nous avons déjà traité un certain nombre de questions avec Sylvain Tronchet, qui est l'auteur de l'enquête, et Benoît Colombat de la cellule investigation, donc de Radio France, et ils ont répondu de manière factuelle aux questions relevant de l'enquête. D'ailleurs, j'invite les auditeurs à écouter ou à réécouter leurs interventions sur la page du rendez-vous de la médiatrice de France Inter. Mais au sujet de cette enquête, je voudrais cependant, Jacques Monin, revenir avec vous aujourd'hui sur trois points. Le premier, c'est la complicité supposée entre le pouvoir et Radio France. Et la preuve de cela, selon des auditeurs, c'est la concomitance entre les perquisitions et la publication de l'enquête, comme s'il y avait une opération concertée avec la Macronie.
Bon, alors au risque de me répéter, c'est juste faux. Je suis désolé, mais c'est comme ça. L'enquête était programmée de longue date. Benoît l'a expliqué la semaine dernière. On l'a déjà expliqué plusieurs fois. D'ailleurs, on peut renvoyer aussi au texte qui a été écrit par Sylvain Tronchet, qui se trouve sur le site de France Inter et qui répond de manière circonstanciée. Mais au-delà de ça, en quoi ce serait un problème? Quand on enquête sur l'affaire libyenne, par exemple, qui met en cause Nicolas Sarkozy, est-ce qu'on nous reproche de diffuser des informations sur où en est l'enquête? Quand on enquête sur l'affaire Fillon, par exemple, ce qui était le cas pendant les présidentielles, alors que lui-même est inquiété par la justice, est-ce que les mêmes qui nous le reprochent aujourd'hui viennent nous en faire le grief? Ben, je pense pas. Je pense que enquêter sur une affaire judiciaire qui met en cause un homme politique, des financements publics, des remboursements de frais de campagne, etc., bah, c'est d'intérêt public. Alors, ce télescopage, il est bienvenu, parce que qu'est-ce qu'on a eu dans cette affaire, avant nos révélations? On a eu du bruit, on a eu de la fureur, on a eu de l'écume cette semaine-là, on a eu une perquisition en direct sur Facebook, des réactions outragées, des accusations sur le pouvoir, la justice, la presse, des propos outranciers, mais personne ne savait au fond pourquoi ces perquisitions avaient lieu. Alors que quelques jours après, nous, on puisse éclairer avec des faits ce qui est en train de se passer, je vois pas ce que ça a de scandaleux ou ce que ça a de problématique. Alors ensuite, la Macronie, le complot, le pouvoir, la radio d'État, là aussi on l'a expliqué maintes fois. Bon, on est à l'origine aussi de certaines révélations sur les ristournes dont avait bénéficié Emmanuel Macron pendant la campagne. Et je me souviens qu'à cette époque-là, Jean-Luc Mélenchon faisait référence à notre enquête justement pour dire « regardez ce qui se passe ». Mais je pense que tout auditeur de bonne foi, de Secret d'info, sait que cette accusation n'a pas de sens.
Autre question qui revient à plusieurs reprises dans les mails, est-il vrai, comme l'indique Mediapart, que Sophia Chikirou entretiendrait une relation extra-conjugale avec Jean-Luc Mélenchon? Si c'est exact, l'enquête prendrait-elle une autre tournure, demande Cyril.
Bon alors attention, nous n'avons rien affirmé à ce sujet. Bon, cela dit, je ne vais pas non plus esquiver la question puisque des auditeurs se la posent et donc vous nous la relayez. Ce qu'on peut dire, c'est que nous, ce que nous avons considéré, c'est que cet élément pourrait avoir un sens, mais dans un deuxième temps, je m'explique, si demain, par exemple, il y avait une vérité judiciaire sur cette affaire. Alors là, effectivement, pourrait se poser la question de la relation de Sophia Chikirou avec Jean-Luc Mélenchon, parce qu'elle pourrait donner un éclairage nouveau à l'affaire. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, effectivement, une information d'ordre privé peut devenir d'intérêt public. Si, par exemple, je ne sais pas, si un candidat, quel qu'il soit, d'un parti en vue à la présidentielle, confié pour plus d'un million d'euros de marché à son épouse ou à sa compagne, qu'est-ce qu'on en penserait? Est-ce que le prisme de l'affaire ne changerait pas? Donc c'est une vraie question. Mais encore une fois, à ce stade, on a considéré qu'on n'en était pas là. Il y a une simple enquête préliminaire, personne n'a été mis en examen, aucune information judiciaire n'a été ouverte, donc nous avons préféré nous en tenir à éclairer le pourquoi de l'enquête. Maintenant, ce qu'on peut ajouter, Emmanuel, c'est que Mediapart, il faut le préciser aussi, avait une information dont nous ne nous disposions pas. C'est le fait qu'au domicile de Jean-Luc Mélenchon, les policiers ont trouvé Sofia Chikirou chez lui. Et c'est sans doute la connaissance de ce fait précis qui a convaincu nos confrères d'en faire état, ce que nous, nous avons préféré ne pas faire.
Sur la forme du reportage, Pierre, un auditeur, se dit troublé par l'utilisation de plus en plus fréquente de témoignages anonymes. Je le cite, « Cette pratique rappelle les délations anonymes dans tous les domaines, tenez par exemple pendant la guerre ou à la libération. En termes de déontologie journalistique, la pratique de ces pseudo-témoignages théâtralisés à l'antenne est très malsaine. » Que répondez-vous à Pierre ?
Ouais, il faut pas tout confondre. Les témoignages anonymes que nous faisons effectivement parfois lire à l'antenne n'ont rien à voir avec des lettres de dénonciation anonymes auxquelles on fait référence ici. Enfin, rien à voir avec, pardon, mais les mots de collaboration sont déplacés. Nous, nous savons qui parle. Pour notre équipe, pour la cellule d'investigation, ces voix, elles ont un visage, elles ont un nom, elles ont un titre, un statut, une légitimité. Et vous pouvez aisément comprendre que beaucoup d'interlocuteurs ne veulent pas et ne peuvent pas parler à visage découvert. Il suffit de prendre quelques exemples. Lorsque vous avez été victime d'un prêtre pédophile, vous n'avez pas forcément envie de vous découvrir et que votre entourage le sache. Lorsque vous êtes cadre dans une multinationale qui est très puissante et que vous dénoncez un certain nombre de ses agissements, bah, si vous le faites à visage découvert, vous perdez votre travail. Enfin, il suffit de regarder l'historique des précédents lanceurs d'alerte. Ils ont tous perdu leur boulot quand ils sont pas partis en dépression. Ça a été terrible pour eux. Et même dans l'entourage de Jean-Luc Mélenchon, dans l'entourage de certains hommes politiques, il y a des voix qui, en privé, vous disent des choses, donc vous donnent des informations, mais qui, évidemment, ne le diront jamais au micro parce que sinon, elles s'exposent à des représailles. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? On fait comme si ça n'existait pas? On vous fait croire qu'il n'y a pas de pédophilie dans l'église, que la multinationale dont on parle est parfaitement vertueuse, que tout va bien dans l'entourage de Jean-Luc Mélenchon, que personne n'a de critique à lui formuler. Ben faire ça, ce serait ne pas vous informer. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Ce que fait tout bon journaliste, c'est-à-dire qu'on protège nos sources, on les abrite effectivement derrière une forme d'anonymat, mais après s'être assuré de leur crédibilité, ce qui vous permet d'avoir accès aux informations qu'on considère comme étant les plus justes possibles.
Pour finir, une autre enquête diffusée samedi dernier, « Pédophilie dans l'église, les raisons de l'omerta », signée Laetitia Chérel. Michel a écouté ce reportage et observe, je le cite, qu'il est fréquent qu'un ou une journaliste parle de l'église, s'agissant des catholiques, comme si cette église était la seule en France. Pire, à Secret d'Info, il a été mentionné « Église de France ». La répétition de cette expression sur votre antenne est en contradiction avec l'histoire, la loi et la sociologie française, à moins qu'Emmanuel Macron n'ait signé en douce un concordat lors de sa visite à Latran.
Non, je vous rassure, il n'a pas signé de concordat. Bon, là, je vais passer la parole à Laetitia Chérel, puisque c'est vous, Laetitia, qui aviez réalisé cette enquête. Bonjour d'abord.
Bonjour.
Alors, l'Église, oui, c'est vrai, effectivement, c'est un raccourci, non ?
Oui. Dire l'Église, s'agissant des catholiques, comme si c'était la seule en France, bien sûr, c'est un raccourci, Michel a raison. Hein. Il y a d'autres églises en France, hein, l'église orthodoxe, l'église protestante. Mais enfin, dans une enquête de 25 minutes, une fois qu'on a posé le sujet, en début d'enquête, comme on l'a fait en parlant de l'église catholique, c'est vrai qu'on peut peut-être parfois avoir recours à des raccourcis en parlant de l'église avec un grand E pour désigner l'institution, pour éviter de se répéter. Quant à la formule église de France, c'est plutôt l'église en France, alors que Michel se rassure, hein, on ne va pas s'en prendre à la loi de séparation de l'église et de l'État.
On en reste là, Emmanuel ?
C'est tout pour aujourd'hui.
Bien, merci Emmanuel Davier. On se retrouve donc fin novembre pour le prochain rendez-vous de la médiatrice.